en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Messieurs, chers confrères, chers amis. L'économie vue par un entrepreneur. Le titre de cette communication que m'a proposé notre président et que j'ai bien entendu accepté m'a la réflexion plongée dans un abîme de perplexité, moi aussi. En effet, il sous-entend que l'entrepreneur, ce micro-économiste de terrain, a une vision de l'économie, avec une majuscule bien sûr, différente de celle des théoriciens macroéconomistes qui volent à une autre altitude et ont de ce fait une vue panoramique et stratégique fort différente. Ce serait en quelque sorte la dualité entre la théorie et la pratique, parfois réputée insoluble, alors qu'elle peut souvent se conclure par une véritable compatibilité. Notre éminent et regretté confrère, Maurice Allais, que je vais citer plusieurs fois aujourd'hui, parce que nous avions des liens très étroits, Maurice Allais aimait raconter lui-même la plaisanterie d'Einstein, qu'il a même consignée dans l'un de ses ouvrages. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne marche. La pratique, c'est quand on ne sait rien et que ça marche quand même. Et moi, Albert Einstein, j'ai réuni théorie et pratique, puisque dans mon laboratoire, rien ne marche et on ne sait pas pourquoi. Je vais tenter avec appréhension et modestie, de déceler la zone de compatibilité entre théories macroéconomiques, que je permettrai de mettre ici au pluriel, tant elles ont été nombreuses dans le passé, et la pratique de terrain ou microéconomie. Et même, je vais inverser le fonctionnement de la longue vue en visant par l'oculaire et en regardant par l'objectif. Rappelons tout d'abord l'évidence connue de tous. La macroéconomie n'est pas la somme intégrale des microéconomies, mais elle ne peut s'en passer, car les entreprises sont ses constituants, ses molécules de base. Et la micro a précédé la macro, depuis que les premiers hommes ont vendu ou échangé leur gibier et leur récolte. L'économie est-elle vraiment une science ? Cette question agaçait mon ami Jean Fourastier, qui était également membre de notre compagnie, vous le savez tous, et qui me répondait sévèrement « Mais bien sûr, mais elle n'est pas une science exacte. » Et il n'aimait pas, on s'en doute, qu'on l'appelât « science inexacte », compte tenu des différentes théories qui ont pu parfois être contradictoires. Mais les sciences humaines si larges en sont là. Contrairement aux historiens qui ne se trompent jamais, cher Jean Tullard, il n'est pas là. Les entrepreneurs se trompent toujours. Et les meilleurs sont ceux qui se trompent le moins. Les entrepreneurs connaissent peu l'économie, c'est vrai, mais ils la font, contrairement aux politiques qui croient la connaître et la freinent souvent. Les entrepreneurs sont les chefs d'une entreprise plutôt de taille humaine, parfois créateurs de l'entreprise elle-même. J'aborderai dans cette communication les 5 points suivants. 1. Définition et terminologie. 2. Les entrepreneurs tentent de comprendre les économistes. 3. L'entrepreneur créateur de richesses et d'emplois. 4. L'économie actuelle, la France, nouveau pays émergent. 5. L'espoir d'un renflouement. Définition et terminologie. L'économie telle qu'on la connaît est l'économiste tel qu'on le connaît est un macroéconomiste qui observe les étoiles avec sa lunette astronomique, nous l'avons vu. Et le plus petit des entrepreneurs prétend mieux connaître non pas l'économie elle-même, mais les économies quotidiennes qu'il a érigées en dogme. Les économistes sont des intellectuels de talent, et certains d'entre eux peuvent obtenir le prix Nobel, consécration suprême, alors que le prix Nobel de l'entrepreneuriat se fait attendre. Notons au passage que le substantif, enfin retenu par les acteurs et même les observateurs extérieurs, est finalement entrepreneuriat, en concurrence historique, vous le savez, avec entrepreneuriat. Mais l'entrepreneur à tout prendre, qu'est-ce ? Le mot est aussi ambigu que la fonction. En toute simplicité, l'entrepreneur est celui qui entreprend. Et de ce fait, ses fonctions peuvent être innombrables. La compréhension de l'entrepreneur doit beaucoup à Schumpeter, qui le représente comme celui qui est capable de transformer une idée en une innovation réussie. Dans les faits, on a longtemps désigné comme entrepreneur le chef d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics. Et puis cette notion s'est élargie peu à peu jusqu'à désigner tous les chefs d'entreprise de taille humaine. Si l'on retient la classification, que j'aime beaucoup, vous le savez, des qualités des élites en deux catégories bien distinctes. Les qualités de réception, pour utiliser le langage des électroniciens, et les qualités d'émission, on peut attribuer aux meilleurs économistes les quatre qualités de réception. 1. La compréhension rapide, qu'on appelait l'intelligence au XIXe siècle. La faculté d'analyse, la capacité de synthèse et la mémoire. La mémoire, cette qualité longtemps réputée marginale, alors qu'elle a été essentielle, jusqu'à l'arrivée du cloud computing, qui change la donne en exigeant de nouvelles qualités de rapidité, de sélection, et d'accès. Mémoire, féminin au singulier, généralement masculin au pluriel, est une qualité longtemps considérée comme secondaire et en réalité essentielle, et on la juge comme telle lorsqu'elle s'affaiblit tout doucement. Comment écrire ses mémoires en la perdant ? En revanche, les entrepreneurs possèdent des qualités d'émission, dont les principales sont l'imagination créatrice, indispensable et rare, le goût du risque, cette immense spécificité, la ténacité, de plus en plus appréciée, la combativité, l'enthousiasme, le charisme, le courage, le flair des anticipations, le goût du travail en équipe, la résistance à l'épreuve et le bon sens, lui-même longtemps sous-estimé alors qu'il est capital. Ce bon sens étant aux qualités d'émission, malgré sa modestie, aussi important que la mémoire pour les qualités de réception. En un mot, les économistes privilégient la réflexion et les entrepreneurs privilégient l'intuition et l'action. D'ailleurs, de façon présomptueuse, on connaît, l'entrepreneur prétend parfois ne pas réfléchir, mais comme Dieu, intuiter. Peut-être, mais lui, entrepreneur, en se trompant souvent, nous l'avons vu. Après la méthode, le langage. Le langage des économistes et celui des différents entrepreneurs sont sensiblement différents. Pour les premiers, ce sont les flux, les marchés, les échanges, les balances, les équilibres, les monnaies, les courbes, et même le libéralisme et le capitalisme. Pour les seconds, simplificateurs extrêmes, ce sont deux mots magiques de base. Le client et la commande. Et le reste en découle. Le client est le partenaire privilégié de l'entreprise, celui qui la fait vivre et peut-être la fera mourir. François Michelin distribuait volontiers à ses amis un petit cochonnet en bois que je vous ai apporté. Voilà le petit cochonnet donné par Michelin. Il n'était pas fatigué. En prix de revient, il avait dû prendre le moins cher. Un petit cochonnet en bois soutenant l'entreprise, la sphère, avec ses trois pieds classés définitivement dans cet ordre d'importance, disait François Michelin. 1. Le pied client, prioritaire. 2. Le pied personnel. Et 3. Le pied actionnaire, toujours après les deux autres. Pour que ça tienne mieux, moi je rajoutais un quatrième pied, le pied environnement, l'écosystème au pluriel. Le mot commande, lui, est à la fois mystérieux et magique. Il est en amont de tout et il est à lui tout seul le Big Bang. En effet, il commande, si j'ose dire, la mise en route, la production, la livraison, la facturation, l'encaissement et, in fine, la trésorerie. Mais ces deux pivots de l'entreprise, vus par l'entrepreneur, le client et la commande, sont soutenus par une fonction peu citée par les économistes et troisième secret du succès de l'entreprise, la vente. Si la commande est la réalisation de base de toute entreprise, même naissante, Il faut que l'entrepreneur accepte de se consacrer lui-même à l'acte qui la déclenchera, la vente. Or, le mot « vente » a été peu à peu dévalorisé, surtout chez les étudiants du supérieur, vous le savez. On ne sait pourquoi le titre de vendeur fait plus penser à chaussettes qu'à ensemble électronique complexe. Lorsqu'un employeur propose à un jeune cadre frais et moulu d'une école toujours supérieure, bien sûr, mais qui ne porte plus le titre commercial, honorablement remplacé par le superbe mot ésotérique de management qu'on oublie de prononcer à la française malgré son origine, il s'instaure alors un dialogue ambigu. Pendant des décennies, les directions générales d'IBM et de L'Oréal exigeaient que leur grand manager ait rempli auparavant des fonctions de vente. Le plus éclatant triomphe de la vente, c'est celui de l'eau. Ce produit le plus banal sur toute la Terre, mais vendu en bouteille et transporté malgré son poids jusqu'à la table des consommateurs du 21e siècle, un miracle de la vente ou du marketing. Dans nos définitions prioritaires, nous pourrions ajouter le produit, généralement manufacturé, qui se distingue du service dont le développement récent peut occulter l'importance résiduelle de la production industrielle. Certains ont cru que les services prendraient tout l'espace de l'économie et que l'industrie devenue mineure disparaîtrait ou serait réservée à des pays émergents à bas coût de main-d'œuvre. C'était il y a quelques années, ici même, rappelez-vous, les tenants de l'État post-industriel, pourfendeurs de l'industrie, dont l'importance reste pourtant majeure, car c'est elle qui engendre finalement les vrais progrès. Si on supprime artificiellement le produit qui constitue le noyau, en ne conservant que cette mousse qui l'entoure et qui est importante, celle-ci pourrait être balayée par les premiers vents boursiers. Attention à la mousse sans noyau. Si l'économiste est un stratège, l'entrepreneur doit être à la fois stratège et tacticien, comme le rappelait avec humour Conrad Hilton. L'essentiel pour créer une chaîne d'hôtel, c'est de savoir que le rideau de douche doit toujours être à l'intérieur de la baignoire. Car le diable, vous le savez, se cache dans les détails. Autre obligation de l'entrepreneur de terrain, lorsqu'il a une idée novatrice qu'il croit géniale, c'est fréquemment le cas, il doit la soumettre à l'épreuve des faits, production et surtout vente, et avoir la modestie, oui la modestie, de faire demi-tour lorsqu'il se heurte au mur granitique des réalités plutôt que de s'obstiner de façon présomptueuse. C'était, rappelez-vous, le langage constant de notre ami Maurice Allais à propos de ses découvertes en physique sur le pendule paraconique ou l'anisotropie de l'espace, devant l'irréductibilité des faits qui s'imposent à toutes les théories. Fin de citation. Enfin, une caractéristique majeure de l'entrepreneur, c'est son optimisme inquiet. Optimisme indispensable à cette aventure à laquelle il faut croire. Et inquiétude, oui, inquiétude, car le véritable optimisme efficace n'a pas le droit d'être béat, en espérant que la bonne solution tombera du ciel, alors qu'il faut s'acharner pour la faire réussir. Deuxième chapitre, les entrepreneurs tentent de comprendre les économistes. Permettra-t-on à un entrepreneur une petite incursion dans le domaine réservé à l'économie avec un grand T ? Nos amis économistes ici présents, que je salue, me pardonneront, je pense, de ne pas citer tous les grands économistes connus, mais j'ai retenu moi-même ceux qui ont le plus impressionné les entrepreneurs, par ordre purement chronologique. J'y tiens, car vous connaissez mon attachement physique à la chronologie simple qui m'empêche de lire les romans déstructurés et de lire les curriculum vitae écrits à l'envers, la méthode dite américaine, qui m'oblige à les lire la tête en bas, ce qui est peu compatible avec la raideur de la nuque des personnes de mon âge. En fait, le géotropisme de mon sablier est définitif. 1. L'Écossais Adam Smith, né en 1727. est un peu l'ancêtre des grands économistes, connu même des entrepreneurs, ce qui est une référence. Il s'est rendu célèbre par son ouvrage « La richesse des nations », que tout le monde connaît, titre mythique et objectif de tous les entrepreneurs, très séduit également par sa fameuse main invisible qu'il retrouve chaque jour dans les succès d'innovation et d'initiatives risquées. Émule de Smith, les entrepreneurs découvrent par bonheur sa main invisible dans de nombreuses situations au dénouement providentiel et dans l'autorégulation des facteurs économiques eux-mêmes. Deuxièmement, le Français Jean-Baptiste Say, né en 1767. C'est l'un des rares économistes qui ait exercé les fonctions de chef d'entreprise. Il prétendait que l'offre peut créer la demande, et de plus, que les débouchés des nouveaux produits à inventer sont innombrables. Et on a même dit, certains ont même dit, infinis, ce qui n'est pas complètement faux dans la période actuelle du numérique. Sous l'Empire, dans une période de guerre, Jean-Baptiste Say dirigea dans le Pas-de-Calais une filature de coton qui employait jusqu'à 400 salariés, à propos desquels il disait « Il est plus difficile de faire vivre 400 hommes que de les faire tuer ». S'inspirant de Jean-Baptiste Say, les entrepreneurs prétendent que la multiplication des emplois passera par la multiplication des employeurs et qu'il est donc urgent de créer des employeurs. Troisièmement, l'anglais David Ricardo, qui est né en 1772, célèbre pour son exemple sur l'échange de vin et de draps entre la Grande-Bretagne et l'Espagne, et l'Angleterre et l'Espagne, aux conclusions surprenantes d'après sa théorie de l'avantage comparatif. Ricardo pense que les crises sont la manifestation des déséquilibres entre l'offre et la demande, et que sans intervention étatique, le marché pourrait s'auto-réguler, ce qui est apprécié des entrepreneurs. Quatrièmement, le Français Frédéric Bastiat, né en 1801, est tombé longtemps dans un oubli relatif, pas plus long d'ailleurs que celui de Shakespeare. Et il vient d'être réhabilité aux États-Unis, et depuis quelques semaines, un cercle Frédéric Bastiat vient d'ouvrir ses portes à Paris, et je suis fier d'avoir été son premier invité il y a quelques jours. On a plaisanté sur Bastiat, en prétendant que ses écrits étaient trop clairs, et on lui prête cette phrase que vous connaissez bien, « Le public est ainsi fait qu'il se défie autant de ce qui est simple, qu'il se lasse de ce qui ne l'est pas. » Affirmation voisine de celle beaucoup plus tardive de Nicolas Taïeb dans « Le Cygne noir », qui prétend à peu près que les auteurs, et tous les académiciens sont des auteurs, que les auteurs, disais-je, devraient toujours laisser dans leurs écrits un passage incompréhensible pour le lecteur, qui peut prendre à ce moment-là l'obscurantisme pour de la profondeur. Défenseur du libre-échange et du consommateur, Bastiat méritait une réhabilitation. Il aurait influencé Ronald Reagan et Margaret Thatcher. D'autres économistes lui auraient reproché, curieusement, son manque de scientisme. Mais cette caractéristique le rapproche des entrepreneurs de terrain qui lui portent, vous l'avez compris, une haute estime. Cinquièmement, le Français Léon Valras, né en 1834, a été considéré parfois comme le plus grand des économistes, en particulier par Schumpeter lui-même. De formation scientifique, au départ, il abandonna le métier d'ingénieur et créa de ce fait la lignée si brillante en France des ingénieurs économistes, Allais, Lafont, Tirole. En introduisant bien sûr les mathématiques dans l'économie, sa chaire d'économie de Lausanne de 1870 à 1892 est célèbre et depuis cette date, de nombreux économistes ont revendiqué son héritage. Sa théorie de la concurrence parfaite, pure et parfaite, inquiète et fait sourire les entrepreneurs, qui la considèrent comme totalement utopique et par bonheur, disent-ils, irréalisable. Nous ferions tous faillite si la concurrence était parfaite. C'est un pur jeu de l'esprit. En résumé, si Valras fut de l'avis unanime un grand économiste mondial, il attire un peu la méfiance des entrepreneurs eux-mêmes. Sixièmement, l'Italien Vilfredo Pareto, qui est né, lui, en 1848. Lui aussi fut d'abord ingénieur, avant de livrer des combats politiques comme le protectionnisme, contre le protectionnisme, et c'est en 1906 qu'il publia sa fameuse observation, restée célèbre selon laquelle 20% de la population possédait 80% de la propriété en Italie, ce qui se transforma subrepticement en loi des 80-20, appliquée depuis à d'innombrables secteurs. Notre confrère Boris Allais, encore lui, voyant Pareto un grand libéral qui cherchait à réduire les contraintes de la collectivité sur l'individu. Successeur de Valras, en particulier à la chaire de Lausanne, il reprit sa théorie de la concurrence pure et parfaite, et les entrepreneurs lui reprochent de plus son pessimisme constant, alors que nous l'avons vu, ils doivent afficher eux-mêmes un optimisme obligatoire. Septièmement, l'Américain Irving Fisher, né en 1867, mérite une attention spéciale. Les entrepreneurs lui vouent une grande admiration pour sa méfiance vis-à-vis de la dette, qu'il accusait de mille maux. Ainsi, la déflation par la dette qui a fonctionné pendant les années 1930 a aggravé, d'après lui, la dépression. En effet, cette dette, si populaire et si prônée par les endetteurs, est la maladie la plus pernicieuse, car elle est indolore et n'éclate qu'au moment de l'échéance qui peut être fatale, une maladie proprement létale. On sait qu'au Moyen-Âge, la prodigalité était considérée comme un crime et était sévèrement punie. Puis, peu à peu, il devint intelligent de dépenser un argent qu'on n'avait pas encore gagné, subtilité qui échappe aux économes traditionnels. Et cet endettement, qui a pu créer les plus grandes fortunes par anticipation géniale, je le reconnais, est devenu un mode de vie jusqu'aux publicités au ménage, n'attendez pas pour dépenser. Une sorte de pouce au crime dont les ravages ont été évidents. Mais savoir gérer sa dette est un exercice difficile, qui n'est pas à la portée de tout le monde. Et l'on s'étonne ingénument du nombre croissant des malheureux insolvables. Conseillant les jeunes avec prudence et sans morosité, nous avons affiché à Jeunesse et Entreprise le malheur est dans le prêt. Et nous leur conseillons même de ne pas avoir un ego supérieur à leur cash flow. L'Autrichien Joseph Schumpeter est né, lui, en 1883, l'année de la mort de Karl Marx. Il est l'économiste préféré, l'ami des entrepreneurs. Il mit en exergue l'importance de l'entrepreneur et du processus de destruction créatrice porté par l'offre de nouveaux produits sur le marché. On retrouve ici avec produit-marché le langage même des entrepreneurs. Dans l'hommage que j'ai récemment rendu à mon ami, le journaliste, écrivain, économiste Michel Drancourt, dont le fils Laurent est parmi nous cet après-midi, et j'ai rappelé son attachement, Michel Drancourt, à Schumpeter qui le fascinait. Professeur à Harvard de 1930 à 1950, Schumpeter eut comme élève Paul Samuelson et James Tobin. Il est parfois considéré comme le père de l'évolutionnisme économique. Il estime que le fondement et le ressort de la dynamique de l'économie sont l'innovation et le progrès, une technologie évolutive poussant des pans entiers de l'activité économique à s'étioler, mais oui, puis à disparaître, mais oui, après avoir été déterminant. Pour lui, le changement est structurel. On comprend l'admiration des entrepreneurs pour Schumpeter, qui les a réhabilités et même glorifiés. Ils sont pour lui les acteurs fondamentaux de la vie économique. L'entrepreneur, ce n'est pas le rentier capitaliste, mais bien celui qui entreprend, donc innove en permanence. Et Schumpeter fut impressionné par les innovations, pas uniquement technologiques d'ailleurs, d'Henry Ford, d'Alfred Krupp, d'Henri Bessemer et de Thomas Edison. Pour lui, l'entrepreneur crée de la valeur et le profit, et la sanction de l'initiative créatrice. Nous sommes loin de Marx et même des théories économiques classiques de l'époque. Schumpeter affirmait avec force une théorie audacieuse tant appréciée par les entrepreneurs, l'innovation réelle peut entraîner une situation de monopole provisoire, en contradiction avec la théorie de la concurrence parfaite. Et ce monopole provisoire nullement scandaleux permettra pendant quelque temps de hauts profits, permettant l'investissement et surtout l'autofinancement. L'autofinancement, la voie royale de tous les financements, et qui n'est pas, comme l'avait cru, paraît-il, un président de la République, le financement de l'auto. Entrepreneurs, mes frères, profitez au maximum de ces courtes périodes de monopole nullement malsain et sachez en profiter pour organiser vos nouvelles innovations de remplacement. Et voilà pourquoi les entrepreneurs du monde entier sont tous des Schumpeteriens indéfectibles. Toujours provocateur, Schumpeter prône même sa destruction créatrice dans les périodes de crise. Il juge plus propice à l'innovation que les périodes calmes et confortables de non-crise. « Vive la crise !» avait lancé après lui de nombreux acteurs, de nombreux auteurs, dont Michel Dancourt, qui avait fait lui-même un titre d'ouvrage. Vous comprendrez, mes chers confrères, ce favoritisme des entrepreneurs pour l'économie Schumpeter, leur parrain. Neuvièmement, l'anglais John Maynard Keynes, né lui aussi en 1883, est en revanche l'économiste le plus contesté par les entrepreneurs. Keynes, surdoué, excellent mathématicien lui aussi, ne faisait aucune confiance aux entrepreneurs dont la demande était, disait-il, pessimiste. Curieux jugement. Dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, Keynes développe l'idée que la demande est le facteur déterminant expliquant production et emploi. Théorie choquante pour les entrepreneurs qui restent persuadés qu'une offre originale, innovante et compétitive reste la clé de la réussite économique. Notre éminent confrère Jacques Rueff avait parlé de la seconde mort de Keynes dans les années 70 ici-même. Sixièmement, l'Autrichien Friedrich Hayek. Hayek est né en 1899, il a reçu le prix Nobel en 1974. Hayek est un esprit polyvalent qui s'intéressait à différentes disciplines, dont la psychologie et l'économie. Il impressionna les entrepreneurs par sa défense du libéralisme qui s'oppose généralement aux théories de Keynes, ainsi que par son analyse économico-socio-politique de la route de la servitude où il démontre que le pouvoir coercitif de l'État transforme toute question économique ou sociale en question politique. L'Américain Milton Friedman, et ce sera le dernier, né lui en 1916, reçut lui-même le prix Nobel en 1976 et fut reconnu comme l'un des grands économistes du XXe siècle. Heureusement apprécié par les entrepreneurs dont il se sentait proche, tout comme Schumpeter, en affirmant sans cesse la supériorité du libéralisme sur les autres systèmes économiques, et en particulier sur le dirigisme d'État qu'il estimait nocif dans la plupart des cas. Adepte du changement, Friedman dénonce le terrorisme du statu quo. C'est ainsi que Milton Friedman est devenu un peu symboliquement l'adversaire de Keynes. Friedman a déclenché la vague de réformes de l'école monétariste de Chicago, bien connue, et s'est vu récompensé successivement par le prix Nobel à Stiglitz en 82, Coase en 91, Becker en 92 et Lucas en 95. Belle performance. Le livre le plus connu de Friedman est Capitalisme et liberté, tiré à 400 000 exemplaires, à la fois éloge du capitalisme contre l'État-providence utopique. Friedman assiste successivement Richard Nixon et Ronald Reagan, qu'il conseilla aussi dans la gestion de la monnaie, domaine qui, contrairement au libéralisme économique, échappe, je dois le dire, souvent aux entrepreneurs. Ce survol rapide des théories de 11 économistes de renom, les plus connus des entrepreneurs, nous autorise cette brève conclusion. Ce qui est frappant chez les grands économistes, c'est que souvent, ils n'ont pas commencé par des études d'économie et qu'ils sont venus à la macroéconomie par des chemins inattendus, mathématiques, philosophie, mais oui, lettres, mais oui, statistiques, etc., tout comme les entrepreneurs, dans le déclassement de la vocation entrepreneuriale a pu avoir un caractère spontané ou fortuit. Et puis, l'évolution des théories soutenues par les économistes est surprenante, il faut bien le dire. Milton Friedman, dont nous venons de parler, a été keynésien. Mais oui, de 41 à 43, auprès du département du Trésor, sur la question des taux pour financer l'effort de guerre. Nous l'avons dit, l'économie est une science humaine et non une science exacte, ce qui n'affecte en rien sa renommée. Et nous arrivons à l'entrepreneur créateur de richesses et d'emplois, en toute modestie. C'est un thème simpliste, sans doute, mais une mission élevée d'intérêt général méritant considération. On peut alors se poser la question. Pourquoi en Allemagne et aux États-Unis l'entrepreneur est-il considéré comme un premier de cordée, prenant tous les risques et méritant l'estime générale, alors qu'en France, sa réussite éventuelle est rarement admirée, mais plus souvent jalousée, voire dénigrée? Point d'interrogation. Par quelle manœuvre suspecte a-t-il bien pu atteindre ce niveau? Se demande-t-on ingénument ou perfidement? Nous cherchons depuis longtemps les causes de cette mauvaise réputation et il est probable que les quelques affaires scandaleuses de corruption, bien connues, les salaires très élevés de dirigeants de très grandes entreprises aient pu jouer un rôle négatif. Curieusement, on y ajoute parfois le chômage lui-même, dont on rend responsable les entrepreneurs, pourtant si fiers de leur rôle d'employeur. Il est vrai que la France compte, vous l'avez vu, un peu plus de 5 millions de chômeurs, 3 388 000 de la catégorie A, et un peu plus de 5 millions si on compte A plus B plus C, soit 10% de la population active, et se trouve dans une position inquiétante. Vous trouverez dans le petit dossier bleu que je vais faire mettre, l'image de l'entreprise, c'est le tableau 1, une courbe assez curieuse sur laquelle vous jetez, vous verrez la descente prévue et que vous connaissez de 68 et la descente également connue de 81 et la remontée pénible que nous avons faite avec curieusement depuis 1990 une descente lente et semble-t-il incoercible. Nous ne savons pas comment remonter l'image de l'entreprise et nous sommes pourtant très nombreux dans ce pays à nous en occuper. L'une des causes peu connues de notre chômage, puisqu'on vient d'en parler, c'est la montagne de contraintes qu'on applique à l'emploi au risque de le rendre dissuasif. L'un de mes amis, ici présent, je vous remercie, c'est Henri, et m'a offert récemment le petit livre rouge qui terrorise les employeurs. Le voici. C'est le dernier Code du travail 2014 de Dalloz qui comporte 3496 pages, plus 30 pages de sommaire non numéroté, et qui pèse 1,546 kg sur le trébuchet de jeunesse et entreprise. C'est dans une autre couleur le spectre de Hamlet. Pour ceux de nos confrères qui souhaiteraient passer quelques soirées divertissantes, je tiens ce chef-d'œuvre à leur disposition. Mais les entrepreneurs ont beaucoup de peine à démontrer que les rigidités freinent les emplois et que les flexibilités les favorisent, tant il est vrai que certains conformistes lignifiés croient encore qu'il faut définitivement calcifier les emplois pour les rendre éternels ou immortels. Les eaux pétrifiantes remplacent alors la gestion moderne, souple et conviviale de nos ressources humaines, pourtant si remarquables dans notre pays. C'est une vision utopique de l'entreprise et de ses innovations. Le prochain colloque national de jeunesse et entreprise en octobre aura d'ailleurs pour titre « Avenir des métiers et métiers d'avenir » pour bien démontrer l'adaptation permanente de ces futurs métiers pour nos jeunes. La première démonstration historique de l'avantage décisif de la flexibilité fut la bataille d'Azincourt en 1415. On sait que les archers anglais, souples, légers, rapides, flexibles en un mot, ont imposé aux chevaliers français enfermés dans leurs lourdes armures, donc rigides, une dérouillée au sens propre, démontrant historiquement l'avantage de la flexibilité. De même, une démonstration plus scientifique, cette fois, fut apportée au rôle de cette flexibilité sur l'emploi par la suppression en 1986. J'y étais un peu pour quelque chose, vous le savez, de l'autorisation administrative de licenciement réputée maintenir des emplois malheureusement souvent dépassés, voire inutiles. La seule annonce par M. Seguin, au nom de M. Chirac, avec application 6 mois plus tard, a déclenché une vague d'embauche et a stoppé la descente infernale de l'emploi salarié français depuis 1981, voyez la courbe du tableau 2 qui est particulièrement éloquente. Vous verrez ce sursaut inimaginable à une époque où il n'y a pas eu de nouvelle croissance ni d'autres facteurs extérieurs. C'est la seule annonce d'une, d'une libération de contraintes qui a permis ce sursaut historique. On s'étonne parfois que les entrepreneurs français soient saisis pathologiquement d'un syndrome grave, la peur de l'effectif. Alors que les entrepreneurs étrangers affichent triomphalement le succès de leurs effectifs comme preuve de leur réussite. Ce syndrome pernicieux et typiquement français tient aux innombrables contraintes sociales que nos gouvernants empilent depuis toujours avec cette flatteuse appréciation, malheureusement erronée, que le mulet français entreprise est infiniment solide et pourra résister à des charges encore plus lourdes sans ralentir sa marche. Tragique méprise que les entrepreneurs n'arrivent pas à corriger. L'exemple particulier des seuils sociaux de 10, 20, 50 salariés est une démonstration éloquente de nos blocages d'emplois, tout comme l'écrivait Baudelaire à Victor Hugo en exil à Guernesey, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Cœur bien différent par bonheur de celui des immortels qui sont ici. Nous l'avons dit, l'entrepreneur est obsédé par la création de richesses et d'emplois, donc par la croissance de son entreprise. Il tient à rappeler que c'est toujours la croissance économique qui crée l'emploi et jamais l'inverse. Même dans l'alphabet, la lettre E d'économie est avant la lettre S de social. En un mot, pas d'aide tutélaire d'un État Moloch, mais un allègement significatif de toutes les contraintes bien françaises, à la fois fiscales et sociales, frein à disque d'une efficacité de blocage redoutable pour le char de l'État. L'entrepreneur ne peut éviter cependant la lutte mondiale contre les inégalités, initiée, on le sait bien, par Jean-Jacques Rousseau, mais que Tocqueville lui-même avait complété, l'égalité est un principe et l'égalisation un processus. Gare aux sociétés dites égalitaires, avertissait Octave Gélinié, qui les considérait comme les plus inégalitaires de toutes, avec leur nomenclatura totalement immunisée. Gare à l'égalitarisme 68art, proclament les entrepreneurs, qui le considèrent tout simplement comme l'expression vertueuse de la jalousie sociale. En fait, dans l'entreprise, on distingue bien les inégalités de rente et de privilèges qu'il faut réduire à tout prix. Et les inégalités de mérite, de talent, de travail et de risque qu'il faut, au contraire, encourager. Quant à la solidarité et la générosité de l'entreprise, elles sont immenses, mais pudiquement caché. Quand jeune ingénieur, je suis entré dans un grand groupe industriel, mon patron m'avait averti. Jeune homme, sachez qu'en cas de nécessité d'une transfusion sanguine, vous trouverez ici plus facilement un donneur parmi vos camarades de travail que chez vos voisins de palier. Cette solidarité ô combien discrète honore sûrement l'entreprise et les entrepreneurs. Je dois signaler également, comme le souhaitait sûrement Bertrand Colomb qui s'est excusé car il avait une contrainte, que l'entreprise ne peut se passer de morale et que j'ai précisément, avec 25 entrepreneurs, dit le progrès, créé en 1976, c'est bien loin, le mouvement éthique ETHIC, dont le sigle, vous vous en doutez, n'était pas fortuit. Et depuis cette date, nous tentons de démontrer que les mots entreprise et éthique, comme celle de Nicomaque, d'Aristote, ne sont pas incompatibles et se doivent même d'être simultanés et complémentaires. L'économie actuelle, chapitre 4, la France, nouveau pays émergent. Mon optimisme traditionnel bien connu et jugé parfois excessif, m'empêche d'être classé parmi les déclinistes, ces observateurs vigilants de l'économie française qui dénoncent nos faiblesses avec sévérité, certes, mais avec un réalisme et un courage qu'il faut saluer. Cependant, je suis obligé de rejoindre leurs conclusions et de reconnaître les chiffres incontestables et inquiétants publiés tous les jours sur les mauvaises performances de notre pays. Si on a beaucoup parlé de pays émergents, qui sont d'ailleurs depuis longtemps émergés, de même que la Chine s'est éveillée depuis les théories de notre confrère Alain Perfitte, on parle peu de notre pays au passé économique glorieux, s'enfonçant peu à peu pour devenir réellement un pays émergent. Classification peu honorable, mais malheureusement méritée. Pour vous éviter une avalanche d'indicateurs chiffrés, parfois difficiles à mémoriser, je vous propose, chers confrères, les 8 chiffres publiés par le syndicat ASMEP-TI en mars dernier. C'est le tableau 3 de votre petit dossier. Alors, je ne vais pas vous le commenter parce qu'il y a 8 chiffres que vous pourrez lire vous-même, n'est-ce pas, et que je trouve tout à fait compétitifs. Je vais simplement vous donner les résultats en comparant la France à la moyenne européenne. Si vous prenez le poste 1, les prélèvements obligatoires sur les entreprises, France sur Europe, plus 60%. Le tableau 2, impôts sur les sociétés, France sur Europe, plus 70%. 3, impôts sur la production, France sur Europe, 100%. Tableau 4, nombre de petites taxes inférieures à 100 millions d'euros au total, nous avons en France 179 taxes, en Allemagne, 3, au Royaume-Uni, 0. Coût du travail, plus 116 milliards d'euros de charges supplémentaires en France par rapport à l'Europe. Sixièmement, investissement en R&D, la bonne nouvelle, nous sommes à 2,26% du PIB, la France est ici bien placée, bravo. Et septième rubrique, taux de marge des entreprises, c'est la plus dramatique, France 27%. Le plus bas depuis des décennies, Royaume-Uni 34, Allemagne 41, Italie même 40, Espagne 41. Et enfin, dernier, mais le plus mauvais, balance des paiements, la France est le seul pays d'Europe à afficher un déficit commercial supérieur à 2% de son PIB pour 2013. La France déficite 61 milliards, alors que l'Allemagne un excédent de 185 milliards. Ce qui m'a permis d'écrire que notre balance était un fléau. Si 7 indicateurs dramatiques sur 8 affichés sont suffisamment éloquents pour éviter tout commentaire. Le bateau France est un Titanic qui n'a même pas l'excuse d'un iceberg invisible, mais de nombreux commandants successifs peu soucieux de sa flottaison et de sa coque percée. Nos meilleures entreprises se vendent ou se délocalisent à l'étranger, d'après la loi de Mariott, qui s'applique aussi bien à la fiscalité qu'à la pression des gaz. Ceux-ci se déplacent toujours des fortes pressions vers les pressions plus faibles, qu'elles soient atmosphériques, fiscales ou sociales. Maurice Allais, encore lui, pourrait démontrer, une fois de plus, qu'économie et physique font bon ménage, cher Christine. Une autre preuve de notre assoupissement économique est la transformation des PME en ETI. changement capital, car ces ETI sont, vous le savez, généralement innovatrices, exportatrices, investisseuses et même embaucheuses. Or, elles ne sont que 4600 en France. Nous avons 4600 ETI, alors qu'elles sont 12500 en Allemagne, 11000 au Royaume-Uni et même 10000 en Italie. Le tableau 4 de votre dossier est clair sur cette carence française des ETI pour les entreprises de plus de 10 salariés. Cette carence est très grave, le manque d'ETI. Dans l'industrie, il faut bien en dire deux mots quand même, la France avait perdu des centaines d'entreprises patrimoniales de 1983 à 2001 à la suite du doublement des droits de succession jusqu'à la mise en place de nos pactes ASMEP devenus, vous le savez, les pactes d'Utreil en 2003. La grave situation de la croissance française tient d'abord au fait que nous ne soyons jamais sortis réellement de la crise de 2008. L'indicateur reconnu comme le plus important reste notre taux de chômage, exceptionnellement élevé, et il risque de monter encore, car nos entreprises présentent un phénomène peu connu, la surfusion des effectifs. En physique, je parle beaucoup de physique, vous me pardonnerez, mais c'est pour faire comprendre. En physique, la surfusion d'un métal chauffé jusqu'à l'état liquide est précisément la conservation inattendue de cet état en dessous de la température de cristallisation. Cet état de surfusion est une très grande instabilité, puisque le moindre choc ou le moindre petit cristal introduit dans la corbeille fait cristalliser en masse et déclenche la solidification. Est normal à cette température. Comme pardonne ce petit rappel de physique scolaire qui explique l'état instable des sureffectifs de nombreuses entreprises françaises depuis le début de la crise. Or, et contrairement à certaines rumeurs, les entrepreneurs français sont très attachés à leur personnel avec lesquels ils ont souvent noué des liens affectifs qui se superposent aux liens strictement professionnels. Cet attachement n'est pas assez connu, mais il est bien réel, surtout dans les entreprises de taille humaine où le dialogue, est intense, très intense. Et c'est précisément cet attachement qui pousse les entrepreneurs français à conserver leur personnel pendant les crises, avec l'espoir de garder des talents dont ils auront peut-être besoin pour une prochaine reprise dont ils ne connaissent malheureusement pas la date. Aux États-Unis, par exemple, les entreprises adaptent très rapidement leurs effectifs à leurs chiffres d'affaires, sans sentimentalité excessive, mais avec, il faut le dire, un bon espoir pour les licenciés de trouver rapidement un autre travail. Les États-Unis licencient, la France conserve ses effectifs. Mais comment peut-on renflouer notre Titanic ? C'est possible, car nos équipages sont de haute qualité, les deux icebergs les plus menaçants sont une fiscalité himalayenne et des contraintes sociales étouffantes. Si l'on attend qu'un léger réchauffement de l'eau de mer puisse les dissoudre, l'attente sera longue, très longue. Là encore, la physique le prouve, il faudra en fait les dynamiter pour supprimer tout danger de collision fatale. Par ailleurs, c'est l'époque, notre libéralisme football exige des règles du jeu bien précises, avec interdiction de sortir du terrain ou de donner des coups aux adversaires. Mais l'État arbitre doit faire appliquer strictement les règles, oui, et ne jamais donner lui-même des coups de pied dans le ballon, sa véritable distraction. En réalité, il faut dans notre libéralisme économique un État régulateur, coordinateur, facilitateur et incitateur, alors qu'aujourd'hui, il est plutôt en France obstructeur, ralentisseur, démotiveur et empêcheur de créer en rond. Quant à l'enseignement de l'économie dans les lycées, vous vous souvenez, chers confrères, de l'étude que notre académie avait demandé à 5 grands économistes étrangers, cher Michel Pébreau, et pour juger nos programmes et nos manuels et de leurs conclusions, certains économistes les avaient trouvés vénéneux, d'autres phalloïdes. Comme disait Edgar Faure, à propos de ce milieu, pardon, cher secrétaire perpétuel, l'immobilisme est en marche. Mais nos contacts permanent avec le monde enseignant nous permette de détecter quelques lueurs de changement d'esprit vis-à-vis des entreprises, futurs employeurs de ces élèves actuels. Malheureusement, ces plaques tectoniques se rapprochent à une vitesse invisible à l'œil nu. La grande conclusion, me semble-t-il, sera l'acceptation des changements, ces changements qui imposent leur rythme aux entreprises, comme l'a montré Schumpeter. Or, dans les entreprises, il y a une forte accélération des changements, dans un sens comme dans l'autre. Une entreprise semble en grande difficulté, et une innovation peut la relancer magnifiquement. À l'inverse, les positions actuelles qui étaient durables dans le passé peuvent s'épondrer rapidement aujourd'hui, comme l'a montré la position mondiale de Nokia, et je prends le président Lombard à témoin, de Nokia, qui a été obligé de vendre son département téléphone avec une rapidité surprenante. Dans le numérique, par exemple, les chiffres d'affaires peuvent exploser, mais s'ils se révèlent fragiles dans le temps, si l'entreprise ne sait pas maintenir son avance technologique permanente. Ce qui devient vite un tour de force. Les grands du numérique ont en étude des centaines de projets qu'ils doivent trier et sur lesquels ils doivent miser. Dans l'électronique, la loi de Moore, bien connue, prévoyait, vous le savez, le doublement du nombre de transistors sur les puces, les microprocesseurs, n'est-ce pas, tous les 18 mois. Cette fréquence qui a augmenté se rétrécit aujourd'hui à la fois pour des raisons de saturation technologique bien connue des ingénieurs et pour des raisons économiques, compte tenu du coût croissant de la miniaturisation. À un certain stade, une nouvelle technologie s'impose. L'entente de la France dans les TIC, les technologies de l'information et de la communication, par rapport aux pays, par exemple, anglo-saxons, États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, a été inquiétante, car il s'agit d'une branche majeure d'économie de demain. Comme disent nos jeunes, autrefois, on travaillait avec ferveur, aujourd'hui, on travaille avec serveur. Pardon. Pardonnez, c'est incidente. Notre déficit national de compétitivité ne peut plus aujourd'hui être compensé par une simple dévaluation monétaire, comme dans le passé. Il faut donc substituer une réduction majeure des déficits publics. L'exemple suédois des années 90 a été probant dans ce domaine de la réduction des dépenses publiques avec baisse simultanée de la fiscalité. Et le Titanic pourra alors être renfloué. Et voilà mon dernier petit chapitre, l'espoir d'un renflouement. Puisque le titre même de cette communication est bien la vision de l'économie par un entrepreneur. Celui-ci doit expliquer pourquoi, malgré tous les aspects négatifs que nous avons tenté d'analyser sans exhaustivité, il reste à notre pays des atouts qu'il serait coupable de négliger. La France elle-même a été longtemps un pays béni des dieux par sa géographie, son climat, sa position, ses voies de communication, son enseignement, mais oui, malgré ses faiblesses, le goût et l'esthétique de ses habitants, leur créativité. J'ai remis il y a quelques jours les prix étonnants de l'école Créapôle, surprenant. Leur performance reconnue dans le luxe et la gastronomie, entre autres. Mais on peut juger aussi chaque jour, dans nos entreprises, la qualité, la conscience professionnelle et le rendement des salariés, quel que soit leur niveau de qualification. Le talent, l'autonomie des cadres français, généralement polyvalents, et admiré sincèrement par les cadres étrangers. Et enfin, pourquoi ne pas le dire, la vue stratégique, l'imagination, la ténacité, la combativité, le goût du risque, le sens des initiatives et des responsabilités des entrepreneurs français de toutes catégories. Or, nous l'avons vu, la situation des entreprises françaises se retourne de plus en plus rapidement, dans un sens comme dans l'autre. Tant que notre Titanic flotte encore, on peut espérer le renflouer si tout l'équipage veut bien lui apporter son aide et arrêter de fumer le cigare au son de l'orchestre, comme le proposent quelques inconscients. Nous le savons depuis longtemps, les Français sont les plus laxistes dans le bien-être, mais peuvent être les plus acharnés dans les difficultés. Celles-ci, ces difficultés, aujourd'hui, sont-elles suffisamment gigantesques et évidente pour les mobiliser au redressement du bateau qui coule. Voilà la question. Un certain nombre d'indicateurs semblent prouver l'amorce de ce sursaut. Tout d'abord, la double révolution dans la création de nouvelles entreprises, sujet que j'avais traité devant vous il y a quelques années, sous le titre « Le goût d'entreprendre » que m'avait demandé le président Jean Béchler en 2008. Je ne donnerai à ce sujet aujourd'hui que quelques informations nouvelles. Pour ces créations d'entreprises généralement par des jeunes, la France a été parmi les derniers de la classe européenne pendant la deuxième moitié du XXe siècle, alors que les occasions de reconstruction, de la reconstruction et des Trente Glorieuses étaient nombreuses. Dans cette période, la création d'entreprises était réservée aux autodidactes, dont c'était, il faut bien le reconnaître, une voie inespérée de promotion sociale. Mais pour les jeunes diplômés eux-mêmes, leurs parents et souvent leurs professeurs les dissuadaient de cette aventure ni honorable ni héroïque. Et le directeur d'une grande école m'apostrophait vertement « Tu ne vas pas détourner nos élites, car ce sont des élites, de la voie royale de l'administration ou des grandes entreprises pour les égarer avec l'aventure d'une entreprise nouvelle dans des petits sentiers dans les sous-bois. » Fin d'une citation navrante. La première révolution fut un miracle. Dans les années 2000, les créations d'entreprises françaises passèrent brutalement de 200 000 à 300 000 par an, en moins de 10 ans. Et de plus, en 2009, l'apparition des auto-entrepreneurs apporta une petite aide aux créations d'entreprises. En retenant que la moitié du nombre des auto-entrepreneurs considérés comme de vraies créations, la France passa en tête pour le nombre de créations d'entreprises par habitant en Europe. Nous sommes passés en 10 ans la dernière à la première place. Le miracle français de la création d'entreprises. Vous trouverez cette remontée spectaculaire dans les tableaux 5 et 6 de votre petit dossier. Mais si la première révolution a été réussie, la seconde reste à faire. En effet, la France crée des entreprises naines et qui restent naines. Nous cultivons le nanisme avec délectation, avec notre culte de l'ourson, touchant, mais anti-économique. Et la seconde révolution consistera à créer enfin des entreprises de croissance. Or, nous avons fait récemment une petite découverte, une découverte statistique que j'ai mise sous la forme d'un peu présomptueuse d'un théorème. Le voici. Le taux de croissance d'une nouvelle entreprise est fonction du taux d'instruction du créateur. Ça peut pas être plus simple. Ou les termes, vous les remarquez, fonction de et taux d'instruction sont volontairement vagues, car il ne s'agit pas aucunement d'une formule mathématique, mais de résultats statistiques confirmés, d'ailleurs, par quelques exceptions très brillantes d'autodidactes de grand talent. Nous devons donc convaincre aujourd'hui nos étudiants de l'enseignement supérieur que cette création ex nihilo, en déchirant, moralement bien sûr, en déchirant ses diplômes et en repartant de zéro, puisque nous sommes tous des autodidactes de la création, est une aventure risquée mais passionnante. Le tableau 7 de votre dossier montre les deux courbes, celle de l'autodidacte, qui a un effort de démarrage assez faible, parce qu'il n'avait pas de situation efficace, mais dont la remontée est lente, l'intérieur est plus lente, et puis celle du diplômé, qui a une belle situation, qui doit donc faire une chute plus grande au départ, mais qui a une pente beaucoup plus d'ascension beaucoup plus rapide. Il est curieux d'ailleurs que la revue américaine Forbes, que je n'ose accuser de plagiat, ait titré récemment « Entrepreneur, the French do have a word for it, revolution », avec deux mots bien français dans le texte. « Obvious, my dear Watson ». Cet appui imprévu m'autorise à affirmer encore plus fort que l'entrepreneuriat est capital pour l'économie et pour l'emploi et que son explosion ne se fera que par ces deux révolutions au lieu d'une seule. Dans ma longue carrière, je n'ai jamais trouvé qu'une seule méthode pour persuader les jeunes à ce jaillissement. C'est la vertu irremplaçable de l'exemplarité. Affichons les success stories et montrons même l'âge des jeunes créateurs des temps modernes. Et les jeunes voudront les imiter. dans le tableau 8, vous trouverez l'âge des nouveaux créateurs à succès. Et de plus, tentons de démontrer à nos jeunes, enfin adeptes des start-up, que start c'est bien, mais hop c'est mieux. Mais que reste-t-il à inventer, nous demandons parfois avec naïveté. La réponse est simple, tout. Tout. Et les Français, particulièrement les jeunes, ont une inventivité reconnue dans le monde entier. Non, nous n'avons pas inventé seulement la pince à linge, le camembert, la tarte tatin et la guillotine, mais aussi la machine à vapeur de Denis Papin, la montgolfière, la machine à calculer de Pascal, le cinéma des Frères Lumière, le cycle piston biel manivelle de Baudrochasse, qui a bercé mes jeunes années d'ingénieur, les premiers micro-ordinateurs Micral de Gernel chez R2Z en 1971, j'étais sur unité du franco-vietnamien Trong Thi, et la carte à puce de Moreno et les verres progressifs de Bernard Metenaz. Et beaucoup d'autres innovations souvent développées à l'étranger, car nous sommes malheureusement meilleurs innovateurs que développeurs. Quant au baron Bic, il se plaisait à nous raconter qu'il n'avait nullement inventé le stylo à billes, mais avait racheté le brevet 15 ans plus tard au Hongrois Laszlo Biro, et qu'il avait su le développer, le fabriquer et le vendre en très grande série. L'art du développement de notre seconde révolution, nous l'avons vu, hop, c'est mieux. En conclusion, finalement, économistes et entrepreneurs font aujourd'hui le même constat sur la situation inquiétante du bateau national, notre Titanic, qui risque de sombrer corps et bien. Mais l'optimisme réputé excessif des entrepreneurs peut apporter in fine un petit réconfort, malgré les icebergs, les vagues déchaînées et les vents mauvais, car tous les équipages du matelot commandant sont de bonne qualité, même s'ils sont partis ivres d'un rêve héroïque et brutal, en espérant voir monter du fond de l'océan des étoiles nouvelles, pardon, José Maria de Heredia. Mais avant que le bateau ne coule, les Français ont quelques raisons d'espérer sans chauvinisme excessif. 1. Tous nos opérateurs de l'académie et de tous les niveaux sont de qualité. 2. Des mesures héroïques s'imposeront à tous nos dirigeants politiques, quels qu'ils soient, car ils ne peuvent rester insensibles au spectacle désolant de naufrages programmés. 3. La mutation actuelle de l'enseignement supérieur vers la formation exigée par le numérique et par les entreprises est porteuse d'espoir. 4. La réhabilitation actuelle de l'entrepreneuriat, même et surtout par les diplômés de l'enseignement supérieur, permettra enfin la création d'entreprises de croissance embaucheuses, objectif le plus noble de l'entrepreneur. 5. La réhabilitation actuelle des qualités d'émission, si l'on s'en sous-estimait. 6. Le sursaut mobilisateur de tous les Français qui, nous l'avons vu, peuvent être les plus acharnés dans les difficultés. Et 7. La montée discrète mais réelle des bénévolats et d'innombrables formes altruistes que Balzac lui-même avait reconnues, se donner à une œuvre est l'inutilité la plus passionnante. Et nous voyons autour de nous de nombreux seniors qui remplissent utilement leur seconde vie, c'est le titre d'un de mes livres, pour ces inutilités si utiles, même si les trois jouvenceaux de La Fontaine se moquaient de l'octogénaire, pensent encore de bâtir, mais semer à cet âge, jouvenceaux qui, comme vous le savez, ont été sévèrement punis par l'auteur. Et pour terminer ce constat par un entrepreneur d'une économie actuellement inquiétante, il nous reste, Monsieur le Président, il nous reste l'espoir, espoir qui est un risque, mais un risque qui vaut d'être couru. Merci.